exposition de Le Corbusier est à l'affiche du Centre Pompidou à Paris dès aujourd'hui. Alors qu'on est sur le point de célébrer le cinquantenaire de la mort de l'architecte suisse, certains dénoncent son passé fasciste, Muriel.
Oui, Le Corbusier, vous le voyez tous les jours, c'est l'homme dont on retrouve le portrait sur le billet de 10 francs. Alors à Paris, on célèbre l'œuvre du chaudronnier Charles-Édouard Jeanneret, dit Le Corbusier, un architecte qui a marqué le XXe siècle. Quelques 300 œuvres de Le Corbusier, disparues le 27 août 1965, sont réunies pour l'occasion, dont certaines sont originales. Une exposition qui met au centre le corps de l'homme et qui aide à comprendre la conception de l'espace et des dimensions de Le Corbusier. Mais si l'artiste est reconnu l'homme et controversé, trois ouvrages l'accusent d'antisémitisme, de fascisme militant et d'avoir entretenu des liens avec le régime de Vichy. Une polémique qui en suit d'autres. En Suisse, on retrouve donc Le Corbusier sur le billet de 10 francs depuis 1997. Il y a 10 ans, l'écrivain Daniel de Roulet s'insurge contre ce choix. En 2010, la banque UBS retire une publicité qui met en scène l'architecte chaudronnier. Et enfin, il y a 4 ans, la ville de Zurich renonce à baptiser une place Le Corbusier.
Faut-il cesser de glorifier Le Corbusier ou faut-il dissocier l'artiste de l'œuvre? C'est le débat du jour. Vous pouvez nous donner votre avis sur Facebook ou sur Twitter avec le hashtag ENLD. Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone au 0800 23 33 33. Et n'oubliez pas qu'avant chaque émission, vous pouvez nous laisser vos commentaires sur l'application smartphone.
En ligne directe, Tania Baril, Muriel Balamand.
Ce matin, j'accueille trois invités. Marc Perelman, professeur d'esthétique à l'Université Paris 10 Nanterre. Vous êtes l'auteur de Le Corbusier, une froide vision du monde, paru cette année aux éditions Michalon. Vous êtes avec nous par téléphone de Paris. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour également à Jérôme Chenal, architecte et urbaniste, directeur de la communauté d'études pour l'aménagement du territoire à l'EPFL. Bonjour également.
Bonjour.
Et Vincent Mangea, architecte également. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Marc Perelman, vous faites partie des auteurs qui ont souligné cette année dans leur ouvrage Le passé controversé de Le Corbusier. Vous avez l'impression que le portrait de l'artiste présenté jusqu'à maintenant n'était pas complet, qu'il fallait casser un mythe.
Oui, tout à fait. Le livre que j'ai publié cette année, c'est une publication qui vient après d'autres publications, puisque j'ai été sûrement un des premiers, en tous les cas en France, dès 78, à publier des articles et des livres autour de Le Corbusier et de ses rapports pour le moins ambigus, pour utiliser un euphémisme, de ses rapports ambigus avec, tout simplement avec Vichy, entre autres, et sa dévotion vis-à-vis surtout des grands dictateurs, Mussolini, Hitler, Salazar, Staline, etc., etc. Et évidemment, toute la question qu'on se pose, c'est de savoir si les positions politiques, idéologiques de Le Corbusier, qui sont très liées à l'ordre, à l'hygiène, à la haine viscérale des ouvriers, des pauvres, une forme, disons, d'antisémitisme aussi. Toute la question, évidemment, c'est de savoir si on peut faire une transposition ou s'il y a un rapport, évidemment, entre ces positions idéologiques et politiques avec son architecture.
Alors, on va y revenir, c'est une thèse que vous soutenez, justement. Oui. Mais de par ce passé que vous venez d'évoquer, est-ce que vous avez l'impression que Le Corbusier a été trop glorifié?
Bon, en tous les cas, on a jeté un voile, et pendant trop longtemps, on n'a pas voulu savoir, ou alors on savait, mais sans savoir exactement. Il y avait des rumeurs. On savait que voilà, il avait des sympathies, c'est vrai plutôt un homme d'ordre, qu'il aimait bien la propreté, l'hygiène, etc. Mais on n'était jamais allé voir vraiment, si je peux dire, dans les archives, parce que en fait, ce sont les archives, les écrits qui attestent finalement de ces positions politiques et idéologiques. Alors il y avait eu certains historiens de l'art, je pense en particulier à Pierre-Franc Castel, qui dès les années 50, dans un ouvrage, avait quand même bien indiqué que Le Corbusier il avait une vision très concentrationnaire du système, disons, d'habitation, du logement et de la ville elle-même. Puis ensuite, il y a eu nos amis situationnistes qui ont tout de suite compris que Le Corbusier, c'était un architecte lui aussi d'ordre. Il comparait, c'est vrai, les unités d'habitation à de vastes prisons. Et donc, suite à ça, il n'y a jamais eu vraiment, d'analyse. On n'est jamais allé chercher vraiment dans les documents même, écrits par Le Corbusier. J'étais finalement un peu le seul dans les années 70 à dire que voilà, regardons plus précisément l'histoire, regardons l'environnement politique dans lequel il a évolué, et puis regardons de façon très précise ce qui s'est passé quand il est allé à Vichy tout simplement du janvier, du 15 janvier 41 au 1er juillet 42, c'est-à-dire exactement 17 mois et demi.
Donc un travail d'analyse que vous avez poursuivi encore justement dans votre dernier ouvrage.
Ouais.
Vincent Mangeat, quel regard vous portez sur les critiques qui ont été globalement faites sur le passé de Le Corbusier? Est-ce que ça a changé votre vision de l'architecte?
C'est clair que le temps qui passe apporte, et Perelman vient de le rappeler, était-ce nécessaire, que ce que l'on pouvait pressentir il y a longtemps, il fallait encore que l'histoire fasse son travail, il fallait encore que l'on ouvre les archives, il fallait que l'on fasse un travail qui se fait maintenant, qui s'est fait. Ce que dit Perelman, il ne pouvait pas le dire dans les années 70. Il le dit maintenant parce que le temps a fait son œuvre, en quelque sorte, et que le temps passant, on a une vision plus claire, preuve à l'appui des implications, des engagements, des trahisons peut-être de Corbusier.
Mais est-ce que le fait qu'il ait pu être proche des milieux fascistes, ça remet en question son travail, son œuvre? Monsieur Mangeat.
Oui, je...
Ah, vous réfléchissez, je vous laisse réfléchir.
Je vous réponds par un silence. Ça ne remet pas en œuvre l'entier de son œuvre. Ça souligne l'ambiguïté du personnage. Ça souligne que les uns et les autres, sûrement, on est fait de deux parts. Une part d'ombre et une part de lumière. La part d'ombre, elle est dans la lumière maintenant. Ça ne remet pas en œuvre l'entier de ce qu'il a fait. Ce qu'il n'a pas fait et qui est confirmé maintenant, c'est la ville, l'héritage. Dans le fond, la question qui était la plus importante en entrant dans la paternité, c'était bien de repenser la ville, c'était de repenser la continuité de la grande maison, de l'espace qui appartient à tous. Et là, c'est un échec.
Marc Perelman, en tout cas, à vos yeux, l'idéologie de Le Corbusier est présente dans son travail. C'est ce que vous expliquez dans votre livre. Par quel biais on retrouve cette idéologie?
Ah oui, toute ma démonstration porte sur justement cette correspondance, voyez, entre d'un côté des idées pour le moins autoritaires, des idées d'ordre, d'hygiène, de mise en ordre, parce que le terme qui revient comme leitmotiv chez Le Corbusier, c'est vraiment la mise en ordre. Et il dit dans tous ses écrits, des années 20 jusqu'à sa mort, sa grande obsession, c'est la mise en ordre de la société. Il voit la société et la nature, même de manière plus générale, comme un immense chaos. Et il considère, si vous voulez, que l'architecture, c'est précisément ça qui va remettre en ordre la société. Il dit même quelque part que l'architecture, c'est le prolongement de la sociologie et même de la politique. Et il fait donc, si vous voulez, de l'architecture. Et je rappelle que pour Le Corbusier, l'architecture et l'urbanisme, c'est une seule et même chose. Il fait de l'architecture et l'urbanisme, si vous voulez, la mise en ordre de la société. Et donc toute la question, évidemment, c'est de comprendre que ces idées autoritaires d'ordre, voyez, d'hygiène, de purification, parce qu'il en parle en ces termes-là, il faut vider la ville de ses éléments mauvais, les pauvres, ceux qui n'arrivent pas à résister à la ville moderne, etc. Il faut les jeter à l'extérieur de la ville. Toute son idée, c'est une idée vraiment de mise en ordre, encore une fois. Et donc, quand on lit véritablement ses écrits et quand on analyse précisément ses plans de ville, ces plans d'architecture, eh ben on peut quand même se poser la question de savoir si précisément les idées, si vous voulez, autoritaires qu'il a au départ, dès les années 20, qu'il déploie dans les années 30, etc., si ces idées-là, elles ne sont pas en quelque sorte mises en œuvre, vous voyez, dans son architecture et dans son urbanisme. Et là, je pense qu'effectivement, ce qu'il appelle la ville radieuse, tous les plans d'architecture, tous les plans d'urbanisme ou d'architecture qu'il a pu faire, eh bien, c'est vraiment la transposition, j'allais dire presque littérale, de cette mise en ordre, parce que la ville radieuse, c'est vraiment une ville littéralement effrayante, du point de vue de son organisation spatiale, du point de vue de la rigidité, vous voyez, de cet espace. C'est une ville, si vous voulez, où il ne se passe strictement rien, sinon
donc, une architecture inspirée de la politique fasciste. On a bien compris que c'est justement la thèse que vous soutenez. C'est une thèse qui se tient, Jérôme Chenal.
Par certains biais peut-être, moi, mais je suis pas pas tout à fait d'accord avec ça, parce que si on remet ça dans le contexte de l'époque, c'était pas le seul à faire ça, c'est l'invention du mouvement moderne. On a vu sur le toit du Bauhaus, fermé par les nazis en 33, des gens faire de la gymnastique. Donc il y avait une notion d'hygiénisme là derrière, il y avait une notion de redécouverte d'un certain nombre de choses, et puis une fascination pour les machines, pour les voitures, pour je veux dire, dans les plans de Le Corbusier, on entre quasiment dans le séjour, je caricature un peu, mais la Villa Savoie est faite comme ça, où on arrive avec la voiture, tout est fait pour arriver rapidement de sa voiture à son salon. Donc finalement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Vincent Mangea, puisqu'on a mis en place les préceptes Le Corbusier, puisqu'on a aujourd'hui des voitures absolument partout. Donc finalement, ce que Le Corbusier voulait mettre, cette fascination pour l'automobile, on a réussi à la mettre en place en 50 ans avec les lunettes aujourd'hui, où il est plus tout à fait de bon ton de dire qu'on est pro-voiture et puis qu'on va faire un développement sur la voiture. Ben forcément, ça choque de regarder les anciens plans. Forcément, si je regarde avec mes lunettes aujourd'hui, l'urbanisme de Le Corbusier, il est simplement insupportable. Mais remis dans un contexte de l'époque, ils étaient nombreux à penser ça. Donc moi, je ferais quand même, je nuancerais l'idée que on a mis, que Le Corbusier a mis finalement en espace le fascisme qu'il avait en tête.
Vincent Mangea, vous êtes d'accord avec cette position ? Ou bien, selon vous, on peut vraiment analyser l'œuvre de Le Corbusier au regard de son idéologie ?
Mais alors, j'insiste sur les deux parts. Tout ce que l'on dit à propos de ses engagements, à propos du... Je suis bien d'accord qu'il faut corréler son inclinaison fasciste avec toute une série d'engagements qu'il prend, toute une série de plans qu'il élabore, tout ça je suis complètement d'accord, mais simultanément, je veux voir l'autre côté. Il fait pour l'architecture toute une série de contributions qu'il faut quand même pas évacuer, parce qu'on évacue effectivement la part la plus sombre. Voilà, c'est tout.
Marc Perelman, vous êtes d'accord avec ça ? On peut malgré tout pas remettre en question l'apport, le travail de Le Corbusier ?
Ah bah écoutez, non, ça j'ai toujours pointé, si vous voulez, que Le Corbusier a été un architecte extraordinaire, hein, au sens, oui. Un urbaniste extraordinaire, au sens où vraiment il est...
Non, pas sortait, un urbaniste extraordinaire.
Un architecte, visiblement.
Ça sortait de l'ordinaire, ça c'est clair. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il a réussi avec une puissance, disons, tout à fait impressionnante. Hein. Il avait avec un vrai savoir-faire, si vous voulez, constructif, et surtout avec une puissance d'ailleurs de conviction redoutable. Hein. Il parcourait le monde entier. Il a réussi, c'est vrai, à emporter, si vous voulez, tout le mouvement de l'architecture moderne. Et d'ailleurs, c'est vrai, il avait des rapports plutôt pas mauvais avec le Bauhaus, y compris avec les constructivistes russes, bon, etc., etc. Tout le problème, c'est de savoir, si vous voulez, de quelle architecture on parle. Quelle architecture nous a-t-il proposé ? Et aujourd'hui, vis-à-vis de l'exposition Le Corbusier, qui porte plus précisément sur les mesures de l'homme, mais de quel corps, si vous voulez, s'agit-il ? Hein, quel corps ? Parce qu'on nous dit, oui, il avait vraiment cette idée d'un corps qui magnifiait le corps, etc. Mais tout le problème, c'est de savoir, mais là, on se trompe complètement. Le corps chez Le Corbusier, si je peux dire, bah, c'est vraiment un corps mathématisé, géométrisé, complètement... réduit, si vous voulez, à une vision totalement réifiée, vous voyez, du corps qui devient une espèce de petite chose dans la ville, hein, et qui est réduit à rien, hein, son modulor, mais c'est une façon, si vous voulez, de pétrifier, vous voyez, le corps, où l'idée de plaisir, l'idée de jouissance, l'idée de plasticité même du corps est complètement détruite, hein, par cette idée d'une mathématisation du corps, hein, c'est un corps d'1m83, pourquoi 1m83, le bras levé de 2m26, et qui va donner, qui à partir de ces mesures-là donnerait l'espace réel, l'espace vrai. Ben non, Non, l'espace, c'est tout à fait autre chose.
Et on a bien compris votre message, Marc Perelman. Il est 8h22 sur la première. On débat ce matin de Le Corbusier, du regard qui est porté sur son passé, proche des milieux fascistes. Est-ce une raison pour remettre en question son œuvre? Vous pouvez donner votre avis sur Facebook et Twitter ou par téléphone au 0800 23 33 33. Et ce matin, sur les réseaux sociaux, c'était un peu le débat du cœur contre la raison, Muriel.
Oui, Le Corbusier s'adresse aux émotions. C'est cette lecture que lui préfère Sarah sur Facebook, pour qui Le Corbusier a été un créateur, un visionnaire de son art. C'est vrai qu'il n'est pas parfait sous tous les angles. Il ne faut pas oublier la période dans laquelle il vivait. Le Corbusier bénéficie donc de circonstances atténuantes. Pour un auditeur qui nous a appelé, c'est de son œuvre dont on se souvient et non de son passé politique. C'est donc son travail artistique qui est le plus important. Pour Romain, s'il fallait admirer les œuvres d'une personne en fonction de ses opinions politiques, nos musées seraient certainement vides, nous écrit-il. Et Charles, lui, considère que l'on peut admirer son architecture et condamner fermement le fasciste. Pas d'accord, lui répond Ilan. Son idéologie se retrouve dans son architecture, on l'a dit. Il est clair que son travail et les grandes tendances de l'architecture du XXe siècle, dont il est le plus fier représentant, constituent un avatar particulièrement probant de la terrible brutalisation des sociétés européennes. Enfin, pour Ariane, Le Corbusier ne s'est pas contenté d'être opportuniste. Il a carrément collaboré, sans le moindre regard, pour les centaines de milliers de victimes. Ce n'est pas anodin du tout. Donc non, on ne peut pas dissocier l'homme de son œuvre. Il faut simplement accepter que des artistes de génie peuvent avoir leur côté obscur. Je dirais donc que l'on peut continuer d'admirer la part de son œuvre qui est admirable, mais Ariane se demande tout de même s'il mérite de figurer toujours sur les billets de banque.
On se souvient de la polémique il y a 10 ans, et puis des autres polémiques qu'il y a eu il y a 4 et 5 ans. La présence de Le Corbusier sur les billets de Suisse avait été remise en question. Zurich avait aussi renoncé à donner le nom de l'architecte à une de ses places. Est-ce que là ça va trop loin? Vous avez l'impression qu'on est dans le dénigrement, Jérôme Chenal?
Oui et non, dans le sens où c'est assez récent qu'on s'intéresse à la personne même. Je veux dire, quand on est dans une exposition d'art égyptien, on ne sait pas qui est l'artiste qui a fait l'œuvre. Et puis aujourd'hui, on ne sait pas de quelle œuvre on parle, mais on parle de l'artiste. Donc les gens ont une connaissance sans doute beaucoup plus grande de Le Corbusier que de son œuvre. Et il y a un renversement total. Et on juge l'homme et plus l'œuvre. Moi, je fais le parallèle avec Louis-Ferdinand Céline, qui, ça on l'a su très tôt parce qu'il a écrit très clairement des choses abjectes. Est-ce qu'il faut encore lire Le Voyage parce que ou non? Si on l'a pas lu, on va dire non. Et une fois qu'on l'a lu, on va dire bon, peut-être qu'on peut lire Le Voyage au bout de la nuit. Donc on a aussi une ambiguïté nous-mêmes par rapport à ça. Notre regard est ambigu par rapport à ça parce qu'on aimerait pas que ce soit comme ça, mais ça l'est. Et puis j'aime assez l'idée de Vincent Mangat de cette part d'ombre, justement, ce qui n'excuse absolument rien, mais qui peut peut-être expliquer. Et puis, moi, je suis pas pour jeter aux oubliettes comme ça sur le seul procès d'un homme. Finalement, ce qui m'intéresse chez Le Corbusier, c'est est-ce que son œuvre peut perdurer ou pas? Qu'est-ce que son œuvre nous a appris? Alors, pour moi, c'est un architecte de génie et un médiocre urbaniste, et je crois qu'on est presque tous d'accord là-dessus, pour dire que quand on voit le plan d'Alger, il y a un côté fascinant, mais c'est une aberration totale, hein. C'est une grande autoroute sur toute la côte, et puis les gens habitent sous l'autoroute. Personne aujourd'hui voudrait être dans ces conditions-là. Donc, on peut pas prendre au pied de la lettre ce qu'il a proposé, mais ses œuvres existent, qu'elles soient construites ou pas, on peut pas le nier non plus. J'aime bien l'idée aussi de dire que les musées sont pleins de gens peu recommandables. Donc, à mon avis, il faut vraiment faire le tri entre la personne et l'œuvre, et puis voir si la personne finalement nous intéresse pas, en tout cas moi elle m'intéresse pas, mais voir si dans l'œuvre on peut garder quelque chose ou pas.
Vincent Mangat, à quel moment on ne peut plus dissocier l'homme de l'artiste? Est-ce que ça vous froisse de voir Le Corbusier sur nos billets de 10 francs, ou est-ce que son œuvre se suffit à elle-même?
Non, moi je considère que c'est un tout, même s'il y a deux parts, on ne peut pas les dissocier. Effectivement, penser Corbusier, réfléchir à l'apport de Corbusier, c'est pas dire je m'occupe pas de cette partie et je regarde que ce qui m'intéresse le plus. Les deux choses sont intriquées, imbriquées les unes dans les autres. D'accord. Et c'est bien la difficulté avec un auteur comme celui-là. C'est la difficulté avec Céline, oui. Mais en même temps, on peut lire Céline. Oui.
Mais justement, comment on définit la limite de ce qui est acceptable ou non? Par rapport à la personne, par rapport à ce qu'a vécu la personne, à quel moment on se dit non, là, ses idées sont allées trop loin, je ne peux plus adhérer même à ce qu'il fait.
Eh bien, mon témoignage personnel, c'est peut-être ça que je peux apporter ici, c'est que toute sa... l'échec, en quelque sorte, de sa réflexion à propos de la ville, je le prends pas. Oui, je le prends pour le critiquer, je le prends pour comme contre-exemple, oui, comme ça stigmatise en quelque sorte la part d'échec de ça, et c'est très corrélé avec ses inclinaisons fascistes, pour les appeler comme ça. L'autre part, elle est poétique, elle nous renvoie à l'architecture quelque part au fond des questions qu'elle traite. Et bien sûr, l'architecture, elle est ambiguë toujours, parce qu'elle est toujours tout près du pouvoir, hein, et en même temps, elle est faite par des hommes. Et la condition pour que, idéalement, se réunisse le service d'un pouvoir exemplaire et servi par un homme exemplaire, j'attends toujours la réponse.
On arrive bientôt au terme de cette émission. Marc Perelman, qu'est-ce qu'il faut garder de l'œuvre de Le Corbusier, selon vous? Quel héritage vous garderiez-vous?
Je pense que c'est un tout, hein. Moi, je suis surtout pour regarder son œuvre et d'essayer de comprendre, vous voyez, ce qui l'a véritablement motivé, ce qu'ont été vraiment les ressorts, si vous voulez, profonds, hein, de la mise en œuvre de cette architecture et de cet urbanisme, et comment finalement sa réception, vous voyez, a-t-elle pu s'opérer? Comment se fait-il, vous voyez, que ce que je considère comme un immense contresens, en quelque sorte, historique, que son architecture et son urbanisme, comment ça a pu fasciner tant de monde, et comment on a pu jeter un voile pendant tant d'années sur son passé. Et là, il faut reconnaître quand même que la responsabilité, en particulier de la fondation Le Corbusier, est grande, parce que voilà, dans cette fondation Le Corbusier qui est en France, voilà une fondation qui normalement est là pour tout simplement permettre de connaître véritablement qui a été Le Corbusier. Ça a mis des années et des années avant de savoir, hein, des années et des années, et donc on continue d'ailleurs toujours à euphémiser par exemple le passage de Le Corbusier à Vichy. On parle d'un long séjour à Vichy. Vous voyez, 17 mois et demi, il avait 54 ans, Le Corbusier. C'était pas un jeune homme, vous voyez, perdu comme ça dans l'extrême droite, hein. Il avait 54 ans, donc il savait pertinemment ce qu'il faisait.
Jérôme Chenal, si vous deviez en apprendre plus sur le passé de Le Corbusier, est-ce que ça pourrait changer votre regard sur lui, sur son travail?
Non, parce que pour l'instant, moi, j'ai pas encore, je suis pas convaincu par l'hypothèse qu'il y ait une mise en espace de cette pensée fasciste. On est obligé de remettre ça dans un contexte. Et puis,
il a pas pu le faire, ça.
Non.
Il a pas pu le réaliser.
Donc, je suis un petit peu gêné par rapport à ça. Heureusement, il nous a laissé plein de choses, hein. Quand on parlait tout à l'heure d'ordre, je veux dire, aujourd'hui, la ville suisse, le zonage actuel où on définit les fonctions d'habitat, les fonctions d'industrie, les fonctions de commerce, c'est une mise en ordre d'un espace qui était mixte avant. Donc c'est ce que nous ont appris les modernes, ce contre quoi on lutte aujourd'hui, puisqu'on essaie de remettre la mixité. Mais il n'y a pas que Le Corbusier qui a fait ça, il y a tout un mouvement européen qui a mis en place cet ordre. Donc la question de l'ordre, moi je ne peut pas directement l'associer à un fascisme de Le Corbusier, ou alors ils étaient tous fascistes, et puis Oscar Niemeyer aussi, qui était d'extrême gauche, et lui qui l'a toujours revendiqué. Donc je suis un petit peu gêné par rapport à cette position tranchée sur Le Corbusier.
Et c'est la fin de ce débat. Faut-il cesser de glorifier Le Corbusier, ou l'œuvre doit-elle être tout simplement dissociée de l'homme? Merci à nos trois invités d'y avoir participé. Marc Perelman, auteur de Le Corbusier, une froide vision du monde. Vincent Mangeat, architecte. Et Jérôme Chenal, directeur de la communauté d'études pour l'aménagement du territoire à l'EPFL. Très bonne journée à vous tous. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que le débat se poursuit sur les réseaux sociaux et qu'avant chaque émission, vous pouvez laisser vos commentaires sur notre application smartphone en ligne directe.